Philippe, métaphysique à Fribourg, le 18 janvier 83, quatrième cours.
Ok, donc vous avez tous saisi ce que c'est l'être en arbre. Ça, c'est bien. Si vous avez tous saisi ce que l'être en arbre, c'est pas. En y réfléchissant, parce que c'est très important, vous voyez, ce qu'Heidegger disait reste vrai. C'est que depuis Aristote, ça n'a pas été beaucoup pensé. Pour vous donner un titre d'exemple, hein, Jeanne Hersch, que nous connaissons tous, au moins de nom, Jeanne Hersch disait dans un séminaire dans lequel M. Lorité assistait, il était envoyé ici de Fribourg, et il avait exposé ce que c'est que l'être en acte et l'être en puissance. Et Jeanne Hersch avait écouté avec beaucoup, beaucoup d'attention. Et Jeanne Hersch a dit, si Jaspers, parce qu'elle est très jaspersienne, si Jaspers avait saisi ce que c'est que l'être en acte et l'être en puissance, je crois qu'il aurait fait quelque chose d'extraordinaire au point de vue philosophique. Donc elle avait très bien saisi cette espèce, et j'y crois très fort, parce qu'au fond, l'être en acte et l'être en puissance, ce n'est pas traité dans les philosophies habituelles. Il faut revenir à la source, donc à la distinction originelle, comme dirait Heidegger. Il faut revenir à la distinction originelle de l'être en acte, l'être en puissance, pour saisir ce que c'est. Parce que vous comprenez, le théologien saint Thomas ne nous donne pas l'induction de l'être en acte, l'être en puissance. Il l'utilise. Quand on utilise quelque chose, on l'abîme. Il ne peut pas être autrement. On ne peut pas utiliser sans abîmer. Et donc, saint Thomas utilise la distinction de l'être en acte et d'être en puissance, mais il ne saisit plus le moment originel. Or, au point de vue philosophique, c'est ça qui est intéressant. C'est la fine pointe de l'intelligence qui saisit ça. Et qui saisit, en effet, c'est vrai. Il y a à l'intérieur de l'être, l'être se divise, donc à l'intérieur de l'être, il y a l'être en acte et l'être en puissance. Ce n'est pas deux états. Facilement, nous dirions deux états. Alors à ce moment-là, nous retombons, comme dirait Heidegger, dans la scolastique. Nous retomberions dans les états. Il y a un état imparfait, un état parfait. Ah ça oui. Et ça, je connais ça tous les jours. Hein. Il y a des moments où je suis fatigué, il y a des moments où je suis très éveillé. Et les moments où je suis très fatigué, où je suis très éveillé, c'est le même être, c'est pas deux états différents. C'est deux états différents, deux états. Mais ces deux états, comment peuvent-ils exister si je les étudie? Je peux les opposer dialectiquement. Et en les opposant dialectiquement, je reste dans une opposition, je ne saisis pas l'être en acte. Je décris. Et je suis dans le conditionnement. Tandis que si je veux saisir pourquoi il y a cet être en acte et cet être en puissance, pourquoi y a-t-il ces deux états parfaits et imparfaits, alors à ce moment-là, je vois que l'être, lui, oui c'est vrai, l'être en lui-même, dans ce qu'il a de plus que lui-même, est l'être en acte. Ah, c'est ce que nous allons essayer de comprendre, ça. Donc vous voyez, il faut essayer de saisir ça, ben, ça vaut la peine. Hein. C'est rude comme toute induction. La dernière chose qu'on demande aux examens, c'est l'induction. On demande des déductions, heureusement. On demande des conclusions, on demande des définitions aux examens. On ne vous demande pas si vous êtes intelligent. Heureusement, on vous demande si vous êtes un capitaliste des définitions, si vous avez des tiroirs bien faits, pour savoir toutes sont les définitions, mais on ne vous demande jamais une induction. Parce que souvent le professeur ne sait même pas ce que c'est. Alors, et c'est vrai, ils ne savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'ont pas repris, ils sont restés à l'induction baconienne. Ils n'ont pas du tout réfléchi sur ce que c'est que l'induction aristotélicienne. L'induction aristotélicienne, c'est pas commode du tout. C'est qualitatif. Passage de l'expérience au principe. Je peux dire ça parce que je suis en dehors. Alors ça va, bon. On est libre, vous comprenez. Tandis que quand on est dans l'organisation, faites attention. Mais Tandis que quand on est en dehors de l'organisation, taisez-vous, hein. Quand on est dans l'organisation, il faut faire attention, mais en dehors, on voit très bien. Qu'est-ce que c'est que l'induction aristotélicienne? Aristote nous dit qu'on saisit les principes que par induction. Il le dit. Ça, tout le monde est d'accord, Aristote le dit, explicitement. Donc Aristote dit ça dans les analytiques. On ne saisit les principes que par induction. Or, il nous dit dans le livre Theta, où il fait la distinction de la puissance, qu'on est en présence d'une induction analogique synthétique. Pour saisir l'acte, il considère que l'être en acte est un principe. Puisqu'il faut une induction. Et il nous dit, du reste, à un moment donné, que l'acte, l'être en acte, l'énergeia, c'est telos, donc la fin. C'est la fin de l'être, l'Himalaya. C'est l'être qui touche le sommet. Et c'est pour ça, quand il parle dans le livre Lambda de Dieu, il nous dit que Dieu est acte. Et est-ce que la cité dira acte pur? Mais ça, tu n'as pas besoin de dire plus. Il dit acte. L'acte, il est toujours pur. Dans la mesure où il est acte. C'est la puissance qui est impure. Hein. Mais l'acte est toujours pur. Pas autrement. Il est l'acte. Alors Dieu, il est l'acte. Alors la scolastique dira, saint Thomas dira acte pur, on comprend très bien, pour montrer qu'en lui, il n'y a aucune potentialité. Il est acte. Et on comprend que ça touche un sommet, voyez, ça touche quelque chose d'ultime. Alors c'est pour ça que j'insiste, parce que je crois que c'est très peu dit. C'est très très peu dit, ça. Vous ferez toute votre philosophie sans que jamais on vous parle d'une induction aristotélicienne. Alors que c'est la pièce dominante. C'est par là que notre intelligence progresse. Elle passe du sensible à la saisie du principe. Et tant qu'on n'a pas saisi un principe, vous savez bien, on est des aveugles, des bornes. Si vous aimez une vie, on louche comme on peut, on décrit, on saisit pas un principe. À saisir des principes propres, hein. Le principe propre, c'est saisir la cause. Alors on saisit cette cause dans l'ordre de l'être, cause finale de l'être, comme telle, la fin. Bon, une fois qu'on a saisi l'être en acte, on réfléchit. On a le droit de réfléchir après avoir fait cette espèce. Exactement comme quand vous êtes au sommet de l'Himalaya, nous avons tous fait ça, on est arrivé au sommet de l'Himalaya, on a fait. C'était dur, pénible, on l'a fait. Donc une fois qu'on est au sommet de l'Himalaya, on a le droit de s'arrêter. On a monté, on s'arrête. Et on compare à l'être en acte et l'être en puissance. Donc en puissance, vous voyez, c'est évidemment, c'est très bas, comparativement à l'être en acte. Et on compare, quelle différence y a-t-il entre l'être en puissance et l'être en acte? C'est intéressant de faire cette comparaison. Est-ce que, de fait, alors c'est ça qui est très intéressant à voir, est-ce que je peux comprendre l'être en acte sans avoir compris l'être en puissance? Là aussi, hein. Les dires des philosophes sont distincts. Hein. Si l'être en acte était un état, je ne pourrais pas le comprendre sans l'autre état. Mais si l'être en acte est fin, alors je comprends l'être en acte pour lui-même et par lui-même. Un principe se saisit par lui-même. Les états, c'est relatif les uns aux autres. C'est vrai, pour saisir ce que c'est qu'un état d'imperfection, il faut saisir un peu ce que c'est qu'être un état de perfection. Et pour saisir l'être d'état de perfection, il faut saisir un peu l'état d'imperfection. C'est bien évident. On est à comparer les deux. Tandis que si l'être en acte est fin, alors l'être en acte a une priorité, il est premier, dans l'ordre de l'intelligibilité. L'être en acte, c'est l'intelligibilité ultime. Donc c'est ce qui est saisi directement par lui-même. On le touche. L'intelligence touche. C'est pas une appréhension, c'est un toucher, tingen. L'intelligence touche. Mettre en acte a une priorité dans l'ordre de l'intelligibilité. Il a une priorité dans l'ordre de la connaissance en lui-même. Il est premier. Il est premier. L'être en puissance est second. Il a une priorité dans l'ordre de l'ousia, dira Aristote. Ça, c'est très beau. C'est-à-dire dans l'ordre de l'être. Il est premier dans l'ordre de l'être. L'être est premièrement être en acte. Il est premièrement être en acte. Ça, c'est capital. Voilà les deux grandes priorités, du côté de la connaissance et du côté de l'être. Mais Aristote souligne tout de suite, dans l'ordre génétique, oui, c'est pour ça que c'était très intéressant la question que je vous posais. Est-ce que vous pouvez connaître l'être en acte sans avoir connu l'être en puissance? Génétiquement, l'ordre génétique, il faut passer par l'être en puissance. Vous connaissez toujours l'imparfait quand on connaît le parfait. C'est vrai, vous avez commencé d'être dans le Verseau. Tous, nous avons été d'abord dans le Verseau. Nous n'avons pas eu dans le Verseau une intuition métaphysique de l'être. On ne pourra pas. Ce serait difficile d'avoir eu dans votre Verseau. Souvenez-vous bien, dans votre Verseau, tout d'un coup, vous avez saisi l'être. Je lui ai dit, ah, ce qu'il est beau. Donc, vous avez saisi votre mère. Vous avez un amour premier maternel. Il n'a pas saisi l'être. Non. Vous avez saisi des réalités moindres. Jésus vous a lancé une balle. Première saisie de l'être, la balle. C'est vrai. Seconde saisie de l'être, la mère qui envoie la balle, la mère qui est présente. C'est la présence de la mère. Ça, c'est vrai. Ça a été d'abord des relations comme ça. Mais c'était d'abord génétiquement, dans l'ordre du devenir, dans l'ordre du devenir, cette chose très curieuse, dans l'ordre du devenir, l'être en puissance est avant l'être en acte. Vous comprenez que c'est très important de comprendre ça. C'est très très important. L'être en puissance est avant l'être en acte. Ça fonde tout le devenir. Si, de fait, l'être en acte était toujours premier, il n'y aurait pas de devenir. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'être imparfait. Il y a des réalités imparfaites, il suffit de se regarder. Hein. Regardez-vous dans la glace, et puis vous comprendrez tout de suite que l'être en puissance est avant l'être en acte. C'est tout de suite, hein, vous comprenez tout de suite. Vous comprenez tout de suite que l'être en puissance et l'être en acte. Est-ce que vous direz demain je serai un peu plus beau? Ou je serai un peu plus belle? Ça dépendra. Hein. Donc, on bien alors vous direz, bon, j'ai atteint un sommet dans cet ordre-là. Maintenant, c'est la décline. La décline. La vie montante. C'est-à-dire la vie descendante. Hein. Dans l'ordre génétique, l'être en puissance est premier et l'être en acte est second. Attention, dans l'ordre génétique par rapport à l'individu, mais pas par rapport à l'espèce. Ah, par rapport à l'espèce, ah, ça c'est intéressant. Aristote dit ça, je crois qu'on doit le garder. Par rapport à l'espèce, toujours l'être en acte est avant l'être en puissance. Évidemment, ça va contre ce qu'on dit sur l'évolution. Mais, enfin, vous savez ce qu'on dit sur l'évolution. Hein. L'évolution est en train d'apprendre un gros coup actuellement. Alors, attendons un peu, ça mettra encore un petit peu de temps. Mais elle prend un gros coup. Rostand le disait lui-même. Les dernières découvertes qu'on a faites au point de vue génétique, qui font que dès le premier moment de la conception, l'être humain à son chiffre biologique. Alors, plus que se trouve l'évolution. Alors, je ne conclue pas, hein, c'est pas c'est pas mon affaire, je trouve, de Russie. Mais je veux simplement montrer que lorsqu'il s'agit de l'espèce, c'est une chose très curieuse. L'espèce commence par un être parfait. On n'a jamais constaté, de passage d'un individu à une autre espèce, non ? L'espèce au sens propre de l'espèce, c'est pour ça qu'il y en a un cafouillage terrible, hein, parce que c'est au point de vue philosophique, l'espèce c'est quoi ? L'espèce n'existe pas. Alors vous voyez, on dit évolution de l'espèce, donc on dit évolution de quelque chose qui n'existe pas. L'espèce, ça n'existe pas, ça n'existe que dans mon intelligence. C'est un être logique, l'espèce. L'espèce, c'est un être logique. C'est un être d'horizon. Donc ça n'existe pas. Qu'est-ce qui existe ? La nature. Ah oui, la nature. Oui. Ça, c'est sûr, la nature. Alors la nature qui a des caractères spécifiques. Ah oui, très bien. Qui a des caractères déterminés. La nature forme des caractères déterminés. Et donc, si la nature forme des caractères déterminés, je comprends que, c'est vrai, une nature, elle peut connaître des perfectionnements plus ou moins grands. Alors, elle peut passer d'un état d'imperfection vers un état de perfection. Très bien, un petit état, avant de devenir grenouille. Elle passe des états d'imperfection vers des appareils. Mais pour ça, il faut un milieu. Et donc il faut des causalités qui agissent sur lui. Alors il passe à l'état. Et s'il faut des causalités qui agissent sur lui, donc il y a un être en acte avant. Oui. C'est ça qui est intéressant à voir. Je rentre dans un problème très, très difficile. Ce qui est intéressant à voir, c'est que l'être en acte est antérieur du côté de l'intelligibilité et du côté de l'être par rapport à l'être en puissance. Alors il y aurait quelque chose aussi de très intéressant à faire. Hein. Je ne vois pas, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire, mais c'est très intéressant au moins de le regarder. De regarder la différence entre l'antériorité de l'ousia sur la qualité à la différence de l'être en acte par rapport à l'être en puissance. Il y avait là une comparaison très intéressante à faire. L'être l'ousia est antérieure à la qualité. Qualité ou accident. J'aime mieux dire qualité. En tant que philosophie, je n'aime pas beaucoup dire accident. J'aime mieux dire ousia et qualité. Ousia et quantité. Donc l'ousia est première, la qualité est seconde, dans l'ordre de ce qui est, vu du point de vue de l'être. Donc dans ce qui est, vu du point de vue de l'être, l'ousia est première et la qualité est seconde. Et si on essaie de comprendre l'antériorité de l'ousia par rapport à la qualité, on dira que l'ousia est totalement antérieure à l'accident. Tandis que quand je regarde l'être en acte et l'être en puissance, je suis obligé de faire une restriction dans l'ordre du devenir et du devenir de l'individu. La puissance est antérieure à l'acte. C'est quand même très curieux, ça. Au point de vue philosophique, c'est très intéressant à voir. Hein. C'est très intéressant à se poser la question, pourquoi l'être en acte par rapport à l'être en puissance, qui paraît atteint ce qui est du point de vue de l'être, qui paraît atteint ce qui est dans une profondeur plus grande que nous y a. Qu'est-ce qui atteint plus profondément l'être ? L'ousia ou l'être en acte ? J'espère que vous avez compris. L'ousia atteint l'être dans ce qu'il a de premier selon la détermination. L'être en acte atteint, je veux dire, l'être en acte atteint ce qui est dans l'ordre de la fin. Donc, nécessairement, il faut dire que la division de l'être, l'être en acte et l'être en puissance, atteint plus profondément ce qui est que l'ousia et la qualité. C'est pour ça que la philosophie première, ce qu'on dit la métaphysique, et plus profondément la métaphysique de l'être en acte que la métaphysique de l'islam. C'est pour ça que c'est une injure qu'on fait à la métaphysique quand on dit qu'elle est une ousiologie. C'est une injure, on n'a rien compris à la métaphysique de l'islam. Rien du tout. La métaphysique n'est pas une ousiologie. Elle est une philosophie de l'être en acte. Et la philosophie de l'être en acte implique la philosophie de l'ousia. Mais elle ne s'arrête pas, elle ne vient pas plus loin. Alors c'est ça qui est très curieux et c'est très intéressant. De se poser la question, comment se fait-il que la division, ces deux grandes divisions de l'être, hein, la division de l'être en acte et en puissance, implique une restriction de l'antériorité de l'être en acte par rapport à l'être en puissance. Tandis que quand il s'agit de la division de ce qui est en ousia et en qualité, donc en substance et qualité, la priorité de l'ousia est totale. Qu'est-ce qui serait à me dire ça? Ça, c'est une excellente question à l'examen. Faire sécher le candidat, ça. Excellent, ça. Je vous affirme, si je vous pose cette question-là, vous séchez. Évidemment, on n'a pas tout à fait la subtilité qu'il faudrait. On a fait une chute avant d'arriver à l'Himalaya. Alors, et on est dans un état de prostration. Alors, c'est pas une question de saisir l'être en acte par rapport à l'être en puissance. Mais pourquoi? Il faut se poser la question. C'est très intéressant. Parce que ça nous aide à comprendre, vous voyez, la profondeur de la division de l'être en acte et de l'être en puissance. Oui, dites.
L'ousia n'est pas dans le domaine du devenir,
puisque l'être en acte, l'être en puissance, oui. Oui, c'est très vrai. L'ousia est en dehors du devenir. Est en dehors du devenir. Tandis que l'être en acte peut regarder. Mais alors pourquoi l'être en acte peut regarder le devenir et que l'ousia ne peut pas regarder le devenir? Je retombe sur mes pattes, là. Vous voyez? En creusant davantage, vous avez tout à fait raison, c'est très vrai. Pourquoi la distinction de l'être en acte et de l'être en puissance va atteindre le devenir, alors que la distinction de l'ousia et de la qualité est au-delà? On est dans l'ordre de la détermination. Ici, je suis dans l'ordre de la fin.
Parce que la distinction entre l'être en acte et l'être en puissance va plus loin.
Elle va plus loin. Elle va plus loin, elle a donc une extension plus grande. Elle a une compréhension plus fine, elle va plus loin, elle pénètre plus avant dans l'être. C'est très vrai, elle pénètre plus avant dans l'être. Vous voyez, dire que Dieu est substance, c'est un peu gros. Dire que Dieu est acte, acte, hein. Je dirais jamais que Dieu est substance pure. Donc, on va dire substance pure. On dira substance séparée. Vous voyez, ça ne dit pas substance pure. On dit substance séparée pour bien montrer la substance séparée de la matière. Mais tandis qu'acte pur, ah oui. Il y a quelque chose, vous voyez, et c'est de façon touche le point de vue de la finalité. C'est les rapports entre la cause finale et la cause formelle et la cause finale qui nous font comprendre cela. C'est que de fait, notre intelligence ne peut pas s'arrêter à la détermination. Notre intelligence demande d'aller toujours plus loin. Elle va aller jusqu'à la fin. La fin, c'est la cause des causes. Et si la fin est la cause des causes, c'est justement parce qu'elle va plus loin dans l'ordre de ce qui est premier. La fin, c'est vraiment ce qui est d'ultime. Tandis que la cause formelle n'est pas ultime. Et donc, si je pénètre plus avant dans l'ordre de l'être, j'irai plus loin dans l'ordre de la détermination. Donc là, on est en face de deux divisions de l'être. Hein. Deux divisions de l'être fondamentales. L'être se divise en ousia et qualité, l'être se divise en être en acte et l'être en puissance. Alors ça, c'est très très important au point de vue critique. Hein. Je le dis tout de suite, mettez ça en nota bene. En nota bene. Vous comprenez que nous touchons là les deux divisions de l'être. Et si nous touchons là les deux divisions de l'être, nous touchons là le fondement des deux types d'analogies. Pourquoi y a-t-il deux analogies? C'est parce qu'il y a deux divisions de l'être. que l'analogie, c'est justement de comprendre qu'il y a division et au-delà de la division, il y a l'unité. L'être est ousia, l'être est qualité. L'être est en acte, l'être est en puissance. Donc nous touchons deux divisions de l'être et nous touchons en même temps une unité au-delà de ces divisions. C'est bien ça l'analogie. L'analogie, c'est de voir la diversité et au-delà de la diversité, de comprendre l'unité. Et vous comprenez que l'analogie la plus fondamentale, c'est celle qui regarde l'être. Or, il n'y a pas 36 divisions de l'être. Il y en a deux. Saint Thomas dira trois, mais Aristote en met deux. Là, il y a une petite diversité entre le mental de Saint Thomas et l'Aristote. Saint Thomas dira la troisième division de l'être, l'un est multiple. Il dit ça en commentant la métaphysique. Jamais Aristote ne dit, moi j'ai jamais vu. Si vous le voyez, vous me le direz. Jamais Aristote ne dit que l'être se divise en être un et multiple. Donc, il n'y a pas deux analogies. Il y a deux analogies de l'être, il n'y en a pas une troisième. C'est intéressant à voir ça, ceux qui s'intéressent au problème de l'analogie. Au problème de l'analogie. L'analogie, vous comprenez, n'est pas unie. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux divisions de l'être. La division de l'être en acte et en puissance ne peut pas se ramener à la division de l'être en ousia et qualité. Ce sont vraiment deux divisions dans l'ordre de l'être qui ne peuvent pas, qui sont irréductibles l'une par rapport à l'autre. Et ça, c'est très facile à comprendre, que c'est irréductible par rapport à l'une à l'autre. Vous comprenez ? Vous êtes parfaitement en acte quand vous contemplez. Vous êtes parfaitement en acte quand vous contemplez. Votre être est parfaitement en acte quand vous contemplez. Vous êtes entelekelia quand vous contemplez. Vous êtes en repos dans la fin. Quand vous contemplez, vous êtes parfaitement en acte. Or, au plan métaphysique, la contemplation c'est quoi ?
C'est une qualité. C'est pas une substance.
Il y a qu'en Dieu où la contemplation est substance. En moi, la contemplation n'est pas ma substance. Alors vous voyez tout de suite la division. La contemplation du côté de l'être en acte et en puissance est bien l'être en acte. C'est pas l'être en puissance. Il n'y a rien au-delà de la contemplation. Donc c'est bien l'être en acte. Il n'y a rien au-delà de l'être en contemplation. Donc, c'est l'être en acte. Et du côté de la division de l'être en ousia et qualité, elle est qualité. C'est un accident, la contemplation. Pierre, quand il contemple, c'est toujours Pierre. Et quand il cesse de contempler, c'est toujours Pierre. Pierre qui contemple en acte, Pierre qui contemple en capacité de contempler. Deux états différents. Vous pourrez prendre des quantités d'exemples, ça, prenez vous-même, et jouez entre cette division de l'être en acte et de l'être en puissance, pour voir que ces deux divisions sont irréductibles. Donc ces deux divisions fondamentales dans l'ordre de l'être, si ce sont deux divisions fondamentales dans l'ordre de l'être, elles font les deux grands types d'analogies. Ces deux grands types d'analogies, c'est l'analogie proportionnelle, l'être en acte et l'être en puissance. Et l'autre, c'est ce qu'on dit habituellement, l'analogie d'attribution. J'aime pas beaucoup le mot, parce que ça c'est de la logique. Alors il faudrait dire l'analogie de l'ordre. J'aimerais mieux dire ça, mais ça se dit pas habituellement. Mais je crois qu'il faudrait dire l'analogie de proportion et l'analogie d'ordre. Parce que l'analogie d'attribution, vous voyez, ça fait tout de suite appel à un aspect logique. Alors, c'est pas intéressant. Au niveau analogie, il faut chercher le fondement. Alors, d'un côté, c'est l'ordre. Il y a un ordre, ici. Il y a un ordre. Toutes les qualités sont ordonnées à l'ousia. On est en face d'une analogie d'ordre, selon la forme. Et de l'autre côté, on est en face d'une analogie beaucoup plus profonde. C'est l'analogie qu'Aristote appelle, il aime beaucoup, allo, allo. Voici l'archéologie. Chaque fois que vous téléphonez, vous êtes en présence de l'analogie. C'est pas parce que vous êtes en présence de l'autre. N'est-ce pas ? Si vous téléphonez, bien. Parce que si vous trouvez le même au bout du fil, c'est dangereux. N'est-ce pas ? Tandis que si c'est allô, allô, c'est autre autre. Vous voyez, c'est autre, autre. C'est ça l'analogie. L'analogie au sens très très fort. C'est autre, autre.
C'est merveilleux, les gens.
C'est autre, autre. L'être en acte et l'être en puissance. Alors vous n'avez plus d'ordre. Vous êtes au-delà. C'est la proportion. C'est l'analogie la plus réelle, la plus profonde. L'analogie d'ordre n'est pas une analogie absolue. C'est pour ça qu'Aristote n'appelle analogie que celle-ci. Saint Thomas appelle l'analogie celle-là aussi. À la suite d'Avicenne. Parce qu'Avicenne déjà le dit. Et à la suite d'Avicenne, Saint Thomas appelle analogie les deux. Il dira analogie d'attribution, analogie de proportion. Vous voyez ? Et on dira analogie de proportionnalité. Troisième division, l'un et du multiple. Or, la distinction de l'un et du multiple n'est pas une division de l'être. C'est pas une division de l'être. Pourquoi ? Parce que l'un n'est pas principe. Donc c'est pas une vraie division. L'un n'est qu'acolyte, comme on le verra. C'est l'acolyte de l'être. C'est ce qu'il y a de second. L'un suit l'être. Donc c'est pas une division, c'est pas quelque chose de premier. Si c'est pas quelque chose de premier, c'est pas une division de l'être. Pour diviser, il faut toucher quelque chose de tout à fait primordial. C'est une division de l'être au sens fort. Donc il n'y a que deux divisions de l'être. Je crois qu'il faut reprendre le point de vue d'Aristote. Il y a deux divisions de l'être, la division substance-qualité, être en acte, être en puissance. Donc il y a deux types d'analogies, l'analogie de l'ordre, que saint Thomas appellera Adunum. L'ordre implique toujours vers l'un. C'est vers l'un. Tandis que l'autre, c'est l'analogie autre-autre. C'est beaucoup plus fort. C'est la diversité en premier lieu. C'est la diversité en premier lieu. Tandis que là, c'est l'ordre vers l'un. Et l'un, c'est vous dire. Toutes les qualités, toutes les autres déterminations sont ordonnées à l'usia. Donc c'est l'analogie seconde. C'est une analogie moins forte, moins plénière. Et alors vous aurez, en plus, ces analogies pourront connaître des modalités différentes grâce à l'un et l'autre. À l'un qui va qualifier l'usia, à l'un qui va qualifier l'acte. Au multiple qui va qualifier les qualités, qui va qualifier les qualités des accidents, et le multiple qui qualifie le grand puissance. Alors vous avez à ce moment-là une multiplicité, on pourra dire analogie de proportionnalité, si vous voulez. Mais en réalité, il y a deux types d'analogies. C'est un gros problème, vous savez, à l'intérieur des thomistes, ils se disputent, ils se tirent les cheveux là-dessus. N'est-ce pas ? Il y a des disputes fondamentales entre les analogies. Vous voyez le livre du Père Montaigne, entre autres. Je ne suis pas d'accord, mais c'est intéressant. Pour voir que, de fait, il essaie de comprendre quel est le fondement de l'analogie. Alors, le fondement de l'analogie, une fois qu'on a compris un tout petit peu, qu'est-ce que c'est que l'analogie ? Le fondement de l'analogie ne peut être que la division de l'être. Tandis que Père Montal dit que le fondement de l'analogie, c'est la participation. Donc on va dire bien que ça ne peut pas être la participation. Ça ne peut pas être la participation. Il n'y a pas connaissance directe de la participation. C'est une conclusion. Tandis que la division de l'être, ah ça c'est l'expérience qui donne ça. C'est et en fond, en réalité, c'est la division de l'être qui divise. C'est la division de l'être qui fonde l'analogie. C'est parce que l'être se divise qu'il y a analogie. Si l'être ne se divisait pas, on aurait une connaissance univoque et c'est tout. Ce serait uniquement dans un seul sens. Mais parce que l'être se divise, alors tout de suite on a deux types d'analogie. C'est pour ça que c'est si important de comprendre ça. Vous voyez, la métaphysique commande tout le reste, c'est bien évident. Et dans la mesure où vous avez saisi la primauté de l'usia sur la qualité et la primauté de l'être en acte énergéia sur l'être en puissance, immédiatement, il y a des tas de choses qui s'écroulent. Et on voit beaucoup plus clair. Bon, vous voyez bien ça, l'intérêt de ça. Comme c'est très difficile, hein, c'est très difficile de rester sur l'être en acte, hein, c'est subtil, c'est une aiguille. Alors c'est difficile de s'asseoir là et d'y rester. C'est une aiguille qui est très 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 affinée. Alors, je vais tout de suite essayer de comprendre que l'être en acte va de fait se donner à moi selon diverses modalités. Et on va comprendre, je fais ça pour que nous comprenions mieux toute la richesse de cette distinction de l'être en acte et d'être en puissance. Diverses modalités. Alors, je vous les donne et nous les verrons la fois prochaine, hein, pour que vous réfléchissiez un peu, c'est bon de les voir deux fois. Diverses modalités. Première modalité, l'être en acte va se donner au niveau de l'usure. Et alors, vous aurez ce qu'on appelle l'essai. Quand je dis ça, je sais bien que je me mets dans ces contrats de Gisson, de Maritain, de Fabrose. Je vais vous l'expliquer en deux minutes, vous allez comprendre. Et puis vous serez d'accord. N'est-ce pas donc ? Deuxièmement, l'être, les modalités de l'acte, le point de vue du bien. Alors, vous avez la volonté. Troisièmement, la vérité. Vous avez donc l'intelligence.
Encore quelques minutes.
Quatrièmement, les opérations vitales. Non, pardon, les opérations vitales. Et puis, nos puissances vitales. Cinquièmement, le point de vue du mouvement et le corps mobile. Vous avez donc cinq modalités. Cherchez bien, je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Ça m'intéressait si vous en pouvez dire. Cinq modalités. L'acte se divise tout de suite. C'est tellement subtil. Hein? Il se divise tout de suite en cinq modalités. Alors là on est stable, on peut s'asseoir. Hein? On n'est plus sur le point de l'aiguille, on peut s'arrêter, hein. C'est facile. Vous voyez bien ce que dit Gilson, ce que dit Maritain, ce que dit Fabreau. Tous les trois, et tous les trois représentent des thomistes qui sont grands, hein. qui sont pas des thomistes qui ont quand même une taille et qui ont un amour pour saint Thomas. Tous les trois disent ceci. Que la métaphysique de saint Thomas n'est pas la même que celle d'Aristote. Qu'il y a une nouvelle métaphysique et celle de saint Thomas. Tous les trois disent que la métaphysique de saint Thomas, c'est la métaphysique de l'essai. Tandis que la métaphysique d'Aristote, c'est la métaphysique de l'ousia. Nous avons déjà démontré que la métaphysique d'Aristote, c'est pas celle de l'ousia. C'est celle de l'acte. Et je vais maintenant vous montrer tout simplement que la métaphysique de saint Thomas, c'est celle d'Aristote. Mais c'est celle de l'acte, c'est pas celle de l'ousia. Quand saint Thomas parle de l'essai, chaque fois que saint Thomas parle de l'essai, ça, regardez saint Thomas, vous verrez. Chaque fois que saint Thomas parle de l'essai, qu'est-ce qu'il dit ? Actus essens. L'essai, c'est l'acte d'être. Actus essendi. Donc, saint Thomas, pour expliquer ce que c'est que l'essai, fait appel à l'acte. Si saint Thomas veut expliquer ce que c'est que l'essai en faisant appel à l'acte, ça prouve que pour lui, l'acte est plus intelligible que l'essai. Faut bien, autrement. Quand on veut expliquer quelque chose, on fait appel à quelque chose de plus intelligible. S'il faisait appel à quelque chose de moins intelligible, ce serait très mauvais. Ça prouverait qu'il n'est pas pédagogue pour un pouce. Tandis qu'on fait appel à quelque chose de plus intelligible. L'essai actus essendi. Il ne dit jamais, ah, si vous trouvez le texte, je vous le dirai, il ne dit jamais que l'acte c'est l'essai. Jamais. Il dit l'acte. Tout simplement l'acte. L'être en acte, l'être en puissance. Vous voyez, quand on divise ce qui est du point de vue de l'être, on divise en energeia, l'être en acte et l'être en puissance. On ne le divise pas en essai et essence. Non. L'ousia, là, hein, quand je dis que l'essai est l'art de l'ousia, Oui, il est l'acte
de Zouzia, c'est très vrai. Il est substantiel en étant l'acte de Zouzia.
Et Zouzia, en tant que justement elle est capable d'être actuée par l'essai,
c'est ce qu'on appelle vulgairement l'essence. Hein?
Vulgairement, parce que le mot essence, l'essai a gardé sa dignité. C'est demander de l'essai. Vous verrez ce que vous recevrez. L'essence, très bien, c'est en puissance. C'est pour ça que ça peut être gardé. L'essai, non. L'essai, c'est l'acte. L'essai, donc, actus essendi. C'est très extraordinaire de voir que l'essai est actus essendi. Quand saint Thomas définit l'essai actus essendi, ça prouve que saint Thomas montre que au-delà de l'essai, il y a une métaphysique de l'acte. Alors, voyez, quand on dit que la métaphysique de saint Thomas est supérieure à la métaphysique d'Aristote parce que c'est la métaphysique de l'essai, je dis non. Disons que saint Thomas, par l'essai, a utilisé d'une manière étonnante la métaphysique de l'acte d'Aristote. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Il l'a utilisé en théologie. Il l'a utilisé d'une façon étonnante. Alors, il l'a exploité de manière étonnante. Mais saint Thomas lui-même définit l'essai par actus essendi. Donc ce qu'il prouve, hein, il suffit du règle de regarder son commentaire des métaphysiques d'Aristote pour voir qu'il a très bien compris que l'être se divise en acte et en puissance. Il ne dit jamais que l'être se divise en essai et puis l'essence. Non ? La teste mixte, hein, la fameuse teste mixte. En tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et exister. En tout être créé, vous ne dites pas en tout être. Parce que si vous disiez en tout être, alors la simplicité de Dieu, ce serait Dieu sans être. Oui. En tout être créé. Et donc, quand je dis en tout être créé, je ne suis plus au niveau métaphysique. Je suis à un niveau de jugement d'existence. J'ai découvert l'existence de l'être premier, j'ai regardé la relation qui existe entre l'être premier et les autres réalités, et dans la lumière de sagesse, je peux dire en tout être créé, il y a une distinction d'essence et d'existence. Mais pour pouvoir dire ça, il faut la métaphysique de l'acte. Donc, la métaphysique de l'acte est antérieure à cette modalité de l'essai. Alors nous regarderons les autres modalités. C'est très intéressant de regarder ces autres modalités de l'acte la fois prochaine. Dans 15 jours, vous avez le temps de ruminer cela et d'essayer de le comprendre.